Bonjour à tous. Sa disparition a été un choc à l'automne dernier. Meng Hongwei, le président d'Interpol, a été incarcéré en Chine. Mais qui est cet homme qui s'était installé à Lyon et faut-il s'inquiéter des soupçons de corruption qui pèsent sur lui? Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Vous allez nous raconter à nouveau ce que vous aviez découvert au cours de votre enquête que nous avions diffusée en février dernier. Et puis nous réentendrons ensuite Olivier Van Bemmen. Lui a publié un livre consacré à Heineken en Afrique. Il y explore les liens historiques qui lient le brasseur néerlandais à certains potentats africains.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Le 25 septembre, Meng Hongwei rejoint la Chine. Le président d'Interpol envoie alors deux messages mystérieux à sa femme. Au bout de quelques jours, jeudi dernier, elle signale sa disparition inquiétante. Elle reçoit elle-même des menaces depuis plusieurs jours. La police l'a placée sous protection.
Voilà, ça c'est un extrait d'un reportage de BFM TV diffusé en octobre dernier. L'épouse du président d'Interpol, Meng Hongwei, s'inquiète de la disparition de son mari qui a été arrêté et emprisonné en Chine, officiellement pour corruption. Alors depuis il a été remplacé, mais qu'un président d'Interpol disparaisse ainsi nous a semblé suffisamment grave pour que nous, à la cellule investigation de Radio France, nous tentions de comprendre plus en détail ce qui s'est passé. Alors vous allez nous dire ce que vous avez découvert, Philippe Reltien. Mais pour commencer, dites-nous en deux mots, Interpol c'est quoi ?
Eh bien Interpol c'est un organe de coopération policière qui compte plus d'un millier de fonctionnaires et qui est en relation avec les polices de 194 pays. Et une de ses particularités, c'est que son siège n'est pas dans une capitale, mais il est situé à Lyon. Lyon qui est en lien avec 7 bureaux délocalisés dans le monde.
Et ça fonctionne comment Interpol ?
Alors Interpol ne peut pas déclencher ni enquête ni poursuite, mais en revanche, elle permet de signaler à l'aide de notices rouges les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Interpol a aussi un fichier spécial pour les groupes radicaux comme Daesh et plusieurs bases de données, de photos et d'empreintes digitales.
Et donc Interpol était présidé jusqu'en septembre dernier par un ressortissant chinois.
Oui, qui s'appelle Meng Hongwei, 64 ans, un vice-ministre de la police, mais aussi un vieux briscard de la politique en Chine. Et pour Rémi Coffert, observateur des grandes polices du monde, ce n'est que le début de sa carrière.
C'est un fonctionnaire de police qui va avoir une ascension, peut-être pas météorique, mais assez rapide, puisqu'il va devenir le président de la section chinoise d'Interpol. En même temps, d'ailleurs, qu'il est vice-ministre de la Sécurité publique, il est aussi responsable de la lutte antiterroriste.
Ah oui, donc il s'occupe d'identifier les dissidents, mais aussi les terroristes.
Oui, et quand on parle de terrorisme en Chine, on pense Tibet ou Xinjiang avec sa minorité musulmane ouïghour dans l'Ouest. Il se trouve que c'est lui, Meng Hongwei, qui a dirigé la police armée du peuple envoyée dans des zones comme le Tibet ou le Xinjiang.
Ouais, mais quand on vous écoute, Philippe, on se dit donc qu'il était avant tout un instrument du pouvoir. Alors comment il a pu ainsi atterrir à la tête d'un organisme comme Interpol ?
Eh bien, en s'appuyant justement sur la question du terrorisme. Il faut se replacer dans le contexte. En 2016, la Chine aussi a ses djihadistes qui rentrent de Syrie. Elle a besoin d'Interpol. Pékin fait donc passer le message qu'un policier chinois peut être utile à l'Occident sur ce terrain-là. C'est ce que nous explique Jean-Philippe Béja, qui est chercheur au CNRS.
À chaque fois qu'il y a des attentats islamistes, des Chinois disent « Mais vous voyez, nous aussi, nous sommes confrontés à ce terrorisme islamiste. Regardez ce qui s'est passé à Urumqi en 2009 avec les émeutes qui ont fait 200 morts. Regardez ce qui s'est passé à Kunming avec l'attentat à Tiananmen. Nous sommes nous-mêmes confrontés et nous devons collaborer au niveau international contre ce terrorisme qui est une menace grave contre l'ensemble des pays civilisés de la planète. »
Et donc ce message a été reçu à Interpol. Alors maintenant, une fois élu, Philippe, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est quoi d'abord le rôle du président ?
Eh bien, il est à la tête d'un comité international composé de 13 membres, mais un comité qui n'a pas vraiment de pouvoir. Le vrai patron d'Interpol, c'est son secrétaire général. Mais être président n'est pas anecdotique non plus, explique Mathieu Martinière, journaliste et co-auteur d'un documentaire sur Interpol.
Le président d'Interpol, il a quand même un pouvoir exécutif au sein de l'institution qui n'est pas négligeable. Et surtout, il a une influence. C'est-à-dire que dans les différentes assemblées dans le monde dans lesquelles il peut se tenir, il peut avoir son mot à dire, il peut s'entretenir avec différents chefs d'État. Et c'est surtout ça dont redoutent les ONG. C'est l'influence que peut avoir le président d'une telle organisation internationale.
Ouais, donc le président n'a pas un rôle neutre non plus. Maintenant, voyons comment il va l'exercer, cette présidence, Philippe. Dès son élection, Meng Hongwei prend une décision qui peut paraître anecdotique, mais qui est en fait assez surprenante.
Effectivement, il va décider de s'installer à Lyon, ce qu'aucun président d'Interpol avant lui n'avait fait. Et dans la foulée, il demande à la France d'autoriser sa femme et ses enfants à séjourner avec lui. Et ça, c'est assez inhabituel, remarque Rémi Coffert.
On se serait plutôt attendu que de Chine, il fasse des allers-retours en Europe, en France, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est de temps en temps, il est un peu en Chine, et principalement à Lyon. D'habitude, ça aurait été l'inverse, c'est-à-dire beaucoup en Chine et un petit peu à Lyon.
Bon, et qu'est-ce qu'on peut en déduire, Philippe ? Qu'il est en train de mettre des distances avec Pékin ?
Eh bien, c'est difficile de le savoir. Mais écoutez ce qu'en pense Raphaël Ruffier, qui est journaliste à Lyon Capital et qui suit ce dossier.
Est-ce que il se savait déjà menacé ? Il a essayé de se mettre déjà un peu à l'abri ? Est-ce que c'est un peu une prise de distance et qu'il lui a valu cette arrestation au final ? C'est une hypothèse sérieuse.
Oui, une hypothèse d'autant plus sérieuse que pendant qu'il officie à Lyon, en Chine, des nuages commencent à s'accumuler sur sa tête.
Oui, le haut fonctionnaire zélé qui était en cours auprès de Xi Jinping semble l'être de moins en moins. Pendant qu'il est à Lyon, on lui retire deux responsabilités qu'il avait au sein du Parti communiste chinois.
Et l'étape suivante, Philippe, c'est que le 20 septembre, il répond à une convocation de Pékin. Et on ne le reverra jamais.
C'est ça. Et dans un premier temps, les autorités françaises n'auront aucune information sur ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, la seule chose qu'on sait, nous dit Alain Juillet, l'ex-chef du renseignement de la DGSE, c'est qu'il a bien été arrêté.
Un jour, il a été convoqué, mais science tenante. Je pense qu'il ne pensait pas à l'époque ce qui allait se passer. Il s'est dit, bon, je suis convoqué, ils veulent me voir tout de suite, mais on lui a, on n'a pas dû lui dire pour vous mettre en prison dans la foulée. Hein. Bon, il est parti et il a disparu.
Ouais, il a disparu, mais il envoie quand même un message à sa femme.
Hein. Oui, à sa femme qui est restée à Lyon. Le premier message est un SMS envoyé sur WhatsApp qui lui dit « Attends mon appel ». Et peu après, elle reçoit une émoticône, une image de couteau de cuisine, dont certains croient se souvenir qu'il a été l'emblème de la police secrète de Mao. Écoutez ce qu'elle a alors ressenti.
La femme, l'épouse que je suis, s'est dit « Ce couteau envoyé par mon mari, c'est le signe d'un danger. C'est pas bon, parce qu'on ne s'est jamais envoyé ce genre d'image avant. C'était la première fois. » Après, j'ai tenté de l'appeler, mais personne n'a répondu.
Vous étiez paniquée ?
Oui, effrayée.
C'était sur WhatsApp ?
Oui, ça venait de son téléphone d'Interpol. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. Ça me fait vraiment mal au cœur, parce que je voudrais connaître la réelle situation de mon mari.
Ouais, donc son épouse s'inquiète, on l'entend. Et dans le même temps, Philippe, comment est-ce qu'on réagit à Interpol ?
Eh bien, on accuse le coup, on ne dit rien. Et il faudra attendre 2 semaines pour qu'Interpol soit finalement averti de la démission de Meng Hongwei. L'organisation reçoit une lettre de 2 lignes seulement, traduite en anglais, même pas signée. Et le lendemain, elle publie un communiqué dans lequel elle prend acte de cette démission, sans autre commentaire. C'est ce que raconte la journaliste de Libération, Laurence Defranoux.
Très rapidement, Interpol s'en est lavé les mains, on peut dire, par un communiqué très court, a dit quelques jours après avoir reçu une lettre de démission de la part de son ancien président et de l'avoir acceptée sur le champ, alors que rien ne permettait de dire que M. Meng avait écrit lui-même cette lettre de démission, qu'elle n'avait pas été écrite sous la torture ou sous au moins des pressions.
Non signée de la main.
Non signée de sa main, sans aucune preuve de vie. C'est pour le moins très étonnant.
Ouais, très étonnant. Et en attendant la suite, Philippe, c'est qu'on va remplacer Meng Hongwei à la tête d'Interpol.
Et immédiatement, son successeur est un Sud-Coréen. Il s'appelle Kim Jong-yang. Il a récemment été élu devant le candidat qui était défendu par Moscou. Et du coup, la vie reprend à Interpol comme si de rien n'était. On a tourné la page avec une rapidité qui déconcerte le spécialiste de la police, Rémi Coffert.
Ce qui me choque, c'est que Interpol ait accepté une démission de loin et n'ait pas demandé à son président de venir officiellement au siège de l'organisation internationale, c'est-à-dire à Lyon, dire qu'il donnait sa démission. Là, c'est un peu bizarre. On est un peu, semble-t-il, rentré dans la logique. Ils l'ont disgracié. Bon, on ne demande pas d'explication. C'est un petit peu bizarre.
Oui, c'est un petit peu bizarre, nous dit Rémi Coffer. Alors justement, Philippe, expliquez-nous comment est-ce qu'on justifie une telle précipitation à Interpol ?
Eh bien, j'ai posé la question à l'actuel secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Lui explique que le règlement de l'institution a été appliqué à la lettre et il affirme avoir eu toutes les assurances que Meng Hongwei avait bien démissionné.
On a eu des contacts avec les officiels chinois et avec des représentants du ministre de l'Intérieur chinois. Ils sont venus à Lyon, on a eu des discussions pendant le week-end, car à vrai dire, tout s'est passé en quelques heures. Ils sont venus, ils nous ont expliqué la situation, ils nous ont présenté tous les documents. Les documents dont j'avais besoin pour prendre les mesures adéquates. Il était clair que notre ancien président n'était plus membre de notre comité exécutif et que le doyen des vice-présidents devait donc le remplacer.
Et c'est donc ce qui s'est passé.
Ouais, sauf que cet épisode a quand même entaché la crédibilité de l'institution.
Eh bien oui, pour Raphaël Ruffier de Lyon Capital, que l'institution la mieux renseignée du monde n'ait pas su où était passé son président pendant 15 jours, c'est quand même un problème.
Ça montre quand même sa faiblesse. Qu'elle soit pas capable de se mobiliser pour son président, savoir où il est, c'est son crédit qui est évidemment entamé. C'était pas un fonctionnaire chinois, c'était le président d'un organisme international. Et c'est quand même effarant que cet organisme ne soit pas en mesure de demander des comptes sur la disparition de son propre président. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Leur président disparaît, ils ne font pas de commentaires, ils enregistrent sa disparition et ils le remplacent.
Ouais, comme si de rien n'était. Bon, cela dit, Philippe, ça paraît étonnant. Et en même temps, c'est pas la première fois que ça arrive.
Effectivement, il y a eu un précédent, 2008. L'ancien commissaire national de la police sud-africaine, Jackie Celebi, a été suspendu de ses fonctions et contraint de remettre sa lettre de démission. Celebi touchait des pots de vin pour acheter des cadeaux à sa femme. Et il avait fait scandale en prônant la légalisation de la prostitution pendant la Coupe du Monde de football en 2010. Et lui aussi a ensuite fait de la prison.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quelles circonstances l'ancien président d'Interpol a été convoqué en Chine et puis emprisonné, expliquez-nous maintenant, Philippe Reltien, pourquoi il est tombé ainsi en disgrâce.
Eh bien, officiellement, pour des faits de corruption. Maintenant, lesquels, précisément, on n'en sait rien.
Mais c'est crédible, ça ?
Eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est que derrière la corruption se cache une purge politique. Parce que Meng Hongwei a certes travaillé pour le pouvoir, mais il a aussi été proche de l'ancien ministre de l'Intérieur, Zhou Yongkang, un rival de l'actuel président chinois, qu'il a d'ailleurs fait emprisonner à vie pour corruption. Or, en Chine, vos relations rejaillissent forcément sur votre carrière, souligne l'expert Rémi Coffer.
Du point de vue de Pékin et des dirigeants chinois, et en l'occurrence du dirigeant chinois, maintenant qui est le nouvel empereur de Chine, si je puis dire, Xi Jinping, il faut une fidélité totale. Et il était quand même marqué par le fait qu'il a appartenu à la clientèle de Zhou Yongkang, qui donc est maintenant en prison et qui a été écarté par Xi Jinping. Peut-être qu'on lui a fait comprendre que, en devenant président d'Interpol, il devait rapporter quelque chose de suffisant pour qu'on passe l'éponge sur son appartenance à un clan maintenant honni et tombé en disgrâce et même en prison, et peut-être sur d'éventuelles malversations financières.
Ah oui, donc Meng Hongwei n'aurait pas donné satisfaction à Pékin en étant à la tête d'Interpol ?
On peut retenir cette hypothèse, mais il faut aussi savoir qu'en Chine, quand vous faites partie d'un clan, si vous êtes du bon côté, tout va bien, mais si vous êtes dans l'autre, votre carrière s'arrêtera. Et c'est ce que relève pour sa part le sinologue et romancier Stéphane Fier.
Le jour où le chef de la faction tombe, tous ceux qui ont fait partie de cette faction, à un degré divers ou avec des délais plus ou moins longs, tombent aussi. C'est un bon moyen d'éliminer des ennemis politiques sous couvert de lutte contre la corruption, tout en sachant que la corruption, de toute façon, là-bas, est institutionnalisée et que si vous êtes haut fonctionnaire ou petit fonctionnaire, vous êtes de toute façon corrompu.
Mais c'est grave ce qu'on entend là, Philippe. Ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement mis en place à la tête d'Interpol, à Lyon, un fonctionnaire corrompu ?
Effectivement, la question méritait qu'on la pose au secrétaire général d'Interpol, l'allemand Jürgen Stock. Je lui ai demandé s'il avait enquêté pour vérifier qu'aucun fait de corruption n'aurait pu avoir lieu pendant que Meng Hongwei était président d'Interpol. Et lui estime que ce n'était pas nécessaire.
Tant que nous n'aurons pas reçu d'informations indiquant que l'enquête établirait un lien avec sa fonction de président, il n'y a aucune raison pour moi de lancer quoi que ce soit en interne. Nous n'avons aucune raison de chercher des suspects parce que les informations que nous avons reçues sont claires. Les investigations en cours ne sont pas liées à ses activités en tant que président. Dans ces conditions, je n'ai pas de raison d'ouvrir une enquête si je n'ai aucun indice, aucune preuve que ses activités, possiblement criminelles, soient liées à son rôle en tant que président.
Voilà, rien à signaler, nous dit l'actuel secrétaire général. Maintenant, Interpol, c'est quand même une organisation sensible qui détient des informations secrètes. Écoutez donc la suite de notre conversation.
Y a-t-il eu une faille de sécurité ?
Non, le président et les membres du conseil exécutif ne sont pas impliqués dans les opérations quotidiennes.
Donc, ils n'ont pas accès à des informations confidentielles.
Non, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Par exemple, quand Interpol décide de publier une notice rouge de recherche ou de prendre la moindre décision opérationnelle.
No USB keys.
Donc, aucune clé USB n'a été emportée en Chine.
Non, ils ne sont pas impliqués dans les affaires au quotidien, en rien. Et d'ailleurs, c'est un collectif qui décide, le comité exécutif, et pas le président d'Interpol. Lui-même ne prend pas de décision, il se contente de présider le comité 3 fois par an pour vérifier que j'applique bien les décisions de notre instance de décision, l'Assemblée Générale.
Oui, Jürgen Stock relativise. Maintenant, autre question, Philippe. Que va devenir son épouse ?
Eh bien, elle et ses enfants ont obtenu l'asile en France le 2 mai dernier et elle entend bien rester dans notre pays parce qu'elle a peur d'être arrêtée si elle devait rentrer en Chine. Écoutez ce qu'elle nous disait lorsque je l'avais rencontrée en janvier dernier.
J'ai besoin que le gouvernement français me protège, m'assiste, m'aide, moi et les enfants. Je veux être assistée et aidée parce que j'ai peur d'être kidnappée.
Vous pensez que vous risquez d'être kidnappée ?
Peut-être. J'en suis pas sûre, mais quelque chose s'est produit. J'ai reçu des coups de fil bizarres. Et même ma voiture a été endommagée. Des Chinois, un homme et une femme, m'ont suivi à l'hôtel et on les a filmés à l'hôtel.
Vous voulez dire que les caméras de surveillance les ont enregistrés ?
Oui.
Les caméras de surveillance de l'hôtel et apparemment effectivement une de ces personnes demandait la chambre, le numéro de chambre de Madame Hongwei, hein, et s'est même précipitée dehors pour photographier sa plaque d'immatriculation. Alors tout ça fait qu'elle s'inquiète d'autant plus, Philippe, qu'un proche lui avait aussi proposé de l'emmener en avion hors de France.
Oui, à Prague, en voyage d'affaires, et avec une insistance telle que cela paraissait suspect. Elle a eu le sentiment qu'on cherchait à tout prix à lui faire quitter la France. Et ça l'inquiète d'autant plus qu'un autre épisode lui a semblé étrange, un épisode que nous raconte la journaliste Laurence Defrano.
Quelques jours après la fameuse démission de M. Meng, elle a reçu une proposition des autorités chinoises disant qu'ils voulaient lui transmettre une lettre de son mari, mais qu'elle devait lui être transmise en main propre par des intermédiaires qui viendraient de Chine. Donc, Madame Meng s'est méfiée, a dit d'accord, à condition que des journalistes et des avocats, et je crois des policiers, assistent à la rencontre. La rencontre n'a jamais eu lieu. Peut-être que c'était un piège pour la faire rentrer en Chine.
Un piège ? Mais la justice n'a pas enquêté là-dessus ?
Et si, justement, mais l'enquête n'a rien donné. Le dossier a été classé par la justice.
Ah ouais, donc on n'en saura pas plus. Maintenant, au-delà du cas de l'épouse de Meng Hongwei, est-ce que cette affaire, Philippe, va laisser des traces ?
Eh bien, a priori non, dans la mesure où la Chine pèse si lourd au plan diplomatique que personne ne lui reprochera ce qui s'est passé. On ne veut pas la contrarier. Mais pour le sinologue Jean-Philippe Béja, cet incident aura quand même contribué à ternir son image.
La Chine, elle avait, avec Meng Hongwei, la présidence d'une importante organisation internationale. Faire passer les questions intérieures avant la position internationale est quelque chose de très inquiétant pour l'ensemble de ses partenaires. Il y a eu une déclaration de Xi Jinping récemment qui disait que la sécurité publique doit être absolument au service du parti. On y réfléchira à deux fois avant d'élire un nouveau responsable d'une organisation internationale chinoise, parce que il apparaît toujours beaucoup plus comme un fonctionnaire du Parti communiste chinois plutôt qu'un fonctionnaire international.
Secret d'info sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a vu comment Interpol a été secoué par l'affaire Meng Hongwei, on va s'arrêter un moment sur un aspect méconnu de cette organisation internationale, c'est son financement. Parce qu'en enquêtant, Philippe Reltien, vous vous êtes aussi rendu compte qu'Interpol n'est pas à l'abri des influences extérieures.
En effet, on pourrait croire qu'Interpol, en tant qu'outil de police, est neutre et se tient à distance des intérêts privés ou des industriels influents. Or, il faut savoir qu'il existe à Genève une fondation qui permet à des partenaires privés de financer Interpol. Et parmi ces partenaires, jusqu'à il y a peu, on trouvait notamment le cigarettier Philip Morris ou encore de grandes firmes pharmaceutiques.
Ouais, donc des privés, mais il n'y a pas que des privés, il y a aussi des États.
Et en particulier les Émirats Arabes Unis, qui ont versé 50 millions d'euros à eux seuls à la fondation. Un don qui n'est pas neutre pour le journaliste et spécialiste d'Interpol, Mathieu Martinière.
Cette somme de 50 millions d'euros sur 5 ans, donc qui correspond à 10 millions par an, quand les Émirats Arabes Unis ont donné cette somme en 2016, ils étaient devenus le premier État, stricto sensu, donc je parle hors apport d'agences gouvernementales, à financer Interpol. En 2017, ils sont seconds derrière les États-Unis. Donc ça provoque une influence d'un tout petit État sur la scène géopolitique. Et il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs ONG qui dénoncent des crimes de guerre commis par les Émirats Arabes Unis au Yémen, dans la coalition internationale avec l'Arabie Saoudite, alors qu'Interpol est censé lutter contre ces crimes de guerre.
Interpol vient d'ailleurs de tenir sa dernière assemblée générale à Dubaï, en attendant d'installer son siège pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à Riyad, en Arabie Saoudite.
Oui, les Émirats Arabes ne sont pas les seuls d'ailleurs à financer Interpol, Philippe, dans cette fondation. On trouve aussi la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Et puis si on regarde la composition de son conseil d'administration, on trouve même des banquiers.
Oui, et notamment un banquier britannique qui a beaucoup fait parler de lui, nous dit encore Mathieu Martinière.
On avait Stuart Gulliver qui était le directeur d'HSBC. On a dû poser la question à Interpol, pourquoi Stuart Gulliver, qui est le directeur d'HSBC, qui est dans le scandale des Swiss Leaks d'évasion fiscale, lui-même pour détenir un compte caché au Panama, est toujours dans cette fondation alors qu'Interpol est censé lutter contre toute forme de criminalité, notamment la criminalité en col blanc. C'est suite au fait qu'on ait posé la question que Stuart Gulliver a aussi dû quitter la fondation. C'est comme si on devait informer des fois Interpol que dans cette fondation, il y a des personnages sulfurés, notamment des personnages qui sont poursuivis en justice.
Et le dernier des personnages poursuivis qu'on citera dans ce conseil d'administration, c'est un certain Carlos Ghosn.
Oui, Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan. Jusqu'en début d'année, il siégeait au conseil d'administration, notamment aux côtés du député Olivier Dassault. Et cela montre bien quelles sont les limites d'Interpol. C'est certes un outil de police internationale qui se doit d'être efficace, mais un outil aussi soumis à des influences dans un contexte diplomatique aux intérêts souvent divergents, ce qui peut compliquer parfois les choses.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Reltien pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Quel rapport y a-t-il entre la bière et certaines dictatures africaines? Réponse dans quelques instants.
Almost impossible to do. when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, and anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life, 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 girl. Now I've been blessed, but not only just me. So many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything you need. So what's needed in my life, girl? You're what's needed in my life, girl? You're what's needed in my life, girl? You're what's needed in my life, girl? Sometimes I sit by myself and think, could I go home if I wake up and find you gone? I don't know what I'll do, but I'm so happy at this moment I got you. And I'm gonna tell you one more time.
Déclaration d'amour, You What's Needed in My Life, tu es ce dont j'ai besoin dans ma vie, extrait du dernier album du chanteur de soul new-yorkais Lee Fields and The Expression.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Olivier Van Bemmen, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Heineken en Afrique, c'est un livre qui raconte comment la célèbre marque de bière néerlandaise a prospéré sur fond de corruption et de soutien aux dictatures. Mais pour commencer, il faut peut-être expliquer que l'Afrique, et on ne le sait pas forcément, c'est un continent où on consomme énormément de bière.
C'est vrai que beaucoup d'Africains adorent la bière, et ce qui rend le continent très intéressant pour les grands groupes brassicoles, c'est que c'est surtout à l'avenir qu'on attend de la consommation énorme. Maintenant que le niveau de vie augmente un peu pour bon nombre d'Africains,
il y a une nouvelle classe moyenne.
Voilà.
Et c'est vraiment
pour beaucoup d'Africains. Le fait d'accéder aux classes moyennes va ensemble avec prendre de la bière industrielle. Donc c'est une chance énorme pour Heineken, pour AB InBev, leur grand concurrent, et pour Diageo, l'anglais. Ce sont les meilleurs.
Vous expliquez qu'il y a des endroits où c'est un véritable culte, la bière. Vous parlez du Burundi notamment, où Kadhafi aurait d'ailleurs proposé de remplacer une brasserie par une laiterie, et ça fait un tollé.
C'était pas une bonne idée, en fait, du guide révolutionnaire de l'époque. Oui, le Burundi, j'ai pas vu un pays, c'est le second pays le plus pauvre du monde. Et ils dépensent presque rien à l'éducation, aux vêtements. Donc c'est vraiment tout leur argent va à la bière.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la bière, ça a aussi un côté obscur. Et un des exemples les plus terribles que vous citez, c'est le cas du Rwanda, où vous ne dites pas que la bière est responsable évidemment du génocide, mais vous dites qu'elle y a contribué.
Heineken est effectivement impliqué dans le génocide rwandais. La bière a joué un rôle. Les génocidaires étaient souvent ivres pendant qu'ils ne tuaient.
Donc le fait de boire aurait encouragé les massacres.
Oui, ça a motivé les génocidaires. En même temps, c'était aussi une récompense après une journée de tuerie. Les génocidaires étaient souvent motivés par l'attente d'une grande quantité de bière. Et la bière industrielle, à cette époque au Rwanda, était rare. C'était une boisson de dimanche. Mais en ces temps de génocide, c'était la fête de la bière, en quelque sorte.
On distribuait la bière.
Oui, oui, oui. Les distributeurs ont contribué à récompenser donc les génocidaires. C'était très important pendant cette période-là. Mmh. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté taxe fiscale. Le fait que Heineken a continué à produire de la bière, c'était une source importante de revenus pour ce régime.
Alors en même temps, Heineken dit qu'à l'époque, sa brasserie était hors de contrôle, que donc ce n'était pas de leur fait si la bière continuait à couler.
Tout à fait. Et ça m'a étonné beaucoup d'ailleurs, parce que j'avais jamais entendu cette version. L'année dernière, pour la première fois, j'étais avec le directeur Afrique et ensuite avec le PDG. Et tous les deux, ils ont commencé par eux-mêmes de raconter cette histoire que la brasserie était devenue autonome et gérée par des employés, leurs propres employés, radicalisés. Or, c'est le directeur Afrique de l'époque, c'est un Français, il s'appelle Jean-Louis Homé. Il m'a dit que la version actuelle, la nouvelle version de Heineken, il m'a dit, non, c'est vraiment... Il dit ça maintenant, c'est pas vrai.
Il la conteste en
tout cas.
Oui,
oui, oui.
C'est ce qu'il vous a dit. Alors, vous citez d'autres faits qui sont extrêmement troublants. Au Nigeria, par exemple, vous racontez qu'en 2006, la filiale de Heineken a utilisé 2500 prostituées pour convaincre des clients des bars de changer de marque de bière pour prendre de la Heineken, enfin la filiale locale, quoi. Et leur rôle était de faire croire que la bière rendait plus puissant sexuellement.
C'est une des grandes histoires de la bière en Afrique, de la bière noire en fait, la Stout comme on dit, Guinness, c'est une marque très connue. Heineken a sa propre marque aussi, Legend, et à cette époque-là, Legend n'allait pas très bien. Donc le PDG Heineken Nigeria de l'époque, il avait conçu une idée. Il a engagé 2500 prostituées. Il les a embauchées dans des bars, dans des cafés, pour motiver, pour encourager les clients à prendre cette bière. Et apparemment, ça a bien marché parce que les ventes ont été quadruplées.
Au Congo, les filles seraient forcées de coucher avec des responsables de la brasserie et elles considéreraient les activités sexuelles comme faisant partie de leur travail.
Oui, ça vient en fait d'un document interne de Heineken qui a révélé cela.
Et alors quand on dit responsable, c'est des expatriés, hein, ce sont des Européens pour la plupart.
Oui, bon, ça peut être aussi des Congolais. Hein. Depuis un certain temps, Heineken a fait des efforts pour africaniser son management. Donc c'est pas seulement des...
Mais ça continue.
Le fait qu'elles doivent coucher avec, par exemple, des gérants de bars, même avec les clients, ça continue, effectivement.
Ah ouais. Ouais. Et vous dites qu'elles devaient, ces filles, boire 5 à 10 bouteilles par jour.
C'est la même enquête interne. Il faut savoir aussi que les bouteilles au Congo, ils ont un contenu de 72 centilitres, donc ce sont presque des bouteilles de vin. Je sais pas comment ces filles peuvent faire cela, mais effectivement, dans cette enquête interne, on lit que c'était bien de boire avec les clients pour pousser les clients à boire plus, et donc 5 à 10 de ces bouteilles. Ouais.
Alors il y a ces pratiques extrêmement contestables, et puis il y a également ce qui est de l'ordre du soutien aux dignitaires et donc de fait aux dictatures. Alors par exemple au Congo, vous expliquez que Heineken met à disposition de hauts dignitaires, dont la femme de Joseph Kabila, le président, une résidence de luxe, un procureur, et lui hébergé à la brasserie. Il y a aussi toute cette logistique qui est mise en place pour favoriser caractérisé avantager les dirigeants.
Oui, même le président Kabila, il a été logé dans une villa dans la ville de Boma, où Heineken a aussi sa brasserie. Oui, c'est effectivement une manière d'avoir des amis, d'éviter des problèmes, d'avoir des contacts, et ça marche très bien.
Et puis, il n'y a pas de frontière entre finalement la brasserie et le pouvoir dans plusieurs de ces pays, parce que les brasseries sont co-administrées par l'État et par Heineken. On peut citer le Burundi. Alors, au Burundi, il y a le Nkurunziza, donc, qui est le président dictateur, qui s'est présenté 3 fois aux élections. Il n'avait pas le droit de le faire parce que la Constitution interdisait cette 3e fois. Mais le président de la Cour constitutionnelle avalise tout de même cette élection. Et comme par hasard, il est récompensé. On lui donne un poste au conseil d'administration de la brasserie. De Heineken.
Oui, ce président du Conseil constitutionnel a été récompensé par une poste qui paye beaucoup plus. Il n'a pas grand-chose à faire.
30 000 euros par an, ce qui là-bas est beaucoup.
Oui. L'un des juges les plus importants du pays est maintenant le numéro 1 de Heineken au Burundi. Ouais. Et ce qu'il fait, bon, c'est qu'il fait des listes ethniques. Et dans ce pays où il y a comme au Rwanda, il y a des Hutus et des Tutsis, et il y a souvent des tensions entre ces deux ethnies. Il fait des listes ethniques de qui est Hutu et de qui est Tutsi, parce qu'il croit qu'il y a une surreprésentation des Tutsis dans cette entreprise. Mais des listes ethniques dans un pays qui est, on dit, au bord d'une guerre civile.
Extrêmement tendu, justement, autour des problèmes ethniques.
Oui.
Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, que vous évoquez dans le livre aussi, c'est celui de l'optimisation fiscale. Parce que les brasseries africaines, c'est aussi un bon moyen, et vous l'expliquez, d'envoyer de l'argent en Suisse.
Ça, c'était l'histoire de l'envoyer en Suisse. Maintenant, ça passe par la Belgique. En Belgique, il y a une filiale qui s'appelle Ibecor, qui est présentée comme une entité logistique qui est censée livrer les ingrédients, les produits pour les brasseries africaines, seulement pour les brasseries africaines, pas pour celles des autres pays lointains.
Donc, ils rapatrient l'argent de ces brasseries en Belgique.
Oui, en fait, ils surchargent tout ça. Ils demandent des prix exagérés.
Surfacture.
Oui, ils surfacturent ces brasseries africaines, qui sont souvent pas à 100% Heineken, donc les partenaires de Heineken y perdent, la fiscalité locale perd de l'argent là-dedans, et donc c'est un moyen de repatrier de l'argent sans payer des taxes.
Donc ces pays africains perdent de l'argent qui se retrouve de fait en Belgique, où on peut optimiser fiscalement.
Oui, c'est
ce qu'on comprend. Alors, vous citez beaucoup d'exemples, qui sont des exemples qui remontent un peu quand même, hein, quand je parlais de 2006 tout à l'heure. Est-ce que ça a changé?
Heineken, maintenant, ils essayent de montrer au moins que ça va mieux. Et moi, je suis allé au Kenya récemment et j'ai découvert que les filles travaillent toujours dans des circonstances pas du tout bonnes. Elles font de la prostitution pour arrondir les fins de mois. Et.
Bon, on aura appris pas mal de choses finalement aujourd'hui. Moi, j'avoue que Heineken en Afrique était un sujet qui m'était relativement étranger et ces pratiques-là sont plutôt effectivement surprenantes. Alors, je rappelle que le titre de votre livre, c'est Heineken en Afrique, tout simplement. Merci Olivier Van Bemmen et je précise qu'il est édité par la rue de l'Échiquier. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et la technique était assurée par Anne-Laure Cochet. Dans quelques instants, regardez voir avec Brigitte Patient. Je vous souhaite un excellent après-midi et à dimanche prochain.